Le livre de Romains est un livre brillant, écrit par le Saint-Esprit à travers Paul. Et beaucoup de du process, de la manière qu'il a traité ses pensées est écrit là. Le Saint-Esprit a vraiment inspiré pour amener l'évangile d'une manière extraordinaire. Je ne dis pas que Jean et les autres ne l'ont pas fait, mais Paul a amené 12 ou 13 épîtres. Ça dépend si vous comptez le livre des Hébreux, mais quand il a écrit le livre des Romains, il pensait internationalement. Il pensait aux Juifs et aux gens du monde. Et c'est clair que peu importe qui vous êtes, vous avez un sérieux problème dans votre vie. Vous, peut-être, ne le réalisez pas. Mais ce problème est énorme. C'est la vieille nature pécheresse. Et il dit là, dans le chapitre 3, il définit qu'est-ce que c'est le péché. Et je veux commencer le message de cette manière ce matin pour amener l'évangile et que vous le compreniez bien, qu'est-ce que c'est l'évangile et comment nous avons tous péché. Au chapitre 3, il dit que les Juifs sont aussi des pécheurs. Il dit, quel est l'avantage des Juifs? Ne sont-ils pas justes? Ne vivent-ils pas par la loi? Ne sont-ils pas religieux? Ne sont-ils pas bons? Il dit non, personne n'est bon, personne n'est juste. Et ça, c'est vraiment un enseignement très profond dans la Bible. Et je suis désolée de voir qu'il y a peu de chrétiens qui le comprennent. Et pourtant, c'est si important que nous avons un péché, que nous avons une nature pécheresse. Et c'est décrit dans plusieurs versets là. Au verset 10, du verset 10 au verset 18, beaucoup, plusieurs prédications pourraient être prises de ce texte. Mais je veux vraiment faire un commentaire important là. Il n'y a personne qui est juste, pas même un seul. Ça, c'est une déclaration générale. Nous étions à Chicago la semaine dernière et je parlais avec un homme qui disait comment les hommes sont bons en général et que même un homosexuel, ça peut être une bonne personne. Il sert la communauté. Et pourquoi l'Église n'accepte pas cela? Et c'est une bonne question quand vous n'avez pas de référence. Dans le sens que ce texte dit, il n'y a personne qui est juste. Personne. Et les pharisiens, et les rabbins, et les prêtres, des hommes qui sont bons dans la communauté, j'en ai rencontré plusieurs. Et c'est sûr qu'on a dû rencontrer des gens honnêtes, des gens qui sont bons, dans beaucoup de champs de la société. Mais pourquoi c'est écrit qu'il n'y a point de juste, même pas un seul? Parce que c'est la pensée de Dieu. Ton voisin va dire, tu es bon, mais peu importe ce que le voisin dit, ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Et il dit cela. Au chapitre 3, verset 10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça, c'est notre état. Nul n'est intelligent. C'est vraiment une référence directe à ce que nous comprenons de la chose la plus importante de la vie. Nous ne comprenons pas Dieu. Nous ne comprenons pas sa façon de penser. Nous ne comprenons pas le sens des choses. Il y a comme un aveuglement à notre sujet. Nous avons péché et le péché nous a mis dans un état de pensée et nous disons et nous voyons que nous ne comprenons pas. Quand Jésus est venu dans le monde, ils ont crié « Barabbas, Barabbas, donne-nous Barabbas !» Et pourtant, Barabbas était un meurtrier. Pourquoi ? Il était un criminel, pourquoi ? Pourtant, lui, Jésus, a multiplié la nourriture, il a ressuscité les morts, et on ne comprend pas. Nous avons tué Christ. Oui, nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas. Souvent, nous ne savons pas comment éduquer un enfant, comment garder un mariage, comment aimer notre femme, comment se lever le matin, comment aimer, comment pardonner. Nous sommes des pécheurs. Et voilà le point ici. Et au verset suivant, tous, nul ne cherche Dieu, pardon. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Le mot perverti, qui ne sert à rien, cela veut dire qu'il ne sert à rien. Ça veut dire que nous sommes allés sur la mauvaise route. Nous sommes allés sur le mauvais chemin. Et nous sommes devenus inutiles. Quand je pense à ce mot improfitable ou bien inutile, je pense à des choses qui sont au bout du jardin, des choses qu'on recycle. Je pense à ces tasses de café en carton là que je voulais. Et je voulais vraiment cette tasse de café. Je la bois dans ma tasse en carton là et puis je jette à la fin. Cette chose que je voulais vraiment au début, maintenant je la jette, je la mets dans la poubelle. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient être jetés au point parce qu'ils sont inutiles, parce que leur vie n'a aucune valeur? Est-ce qu'un homme bon pourrait être inutile? C'est ce qu'il est en train de dire là. La façon de penser de Dieu alors qu'il rappelle les enseignements de l'Ancien Testament, cite les gens, les juifs qui citaient les Écritures ligne sur ligne. Ils utilisaient leur propre Bible pour montrer qu'ils étaient pécheurs. Il n'y a personne qui fasse le bien. Qui fasse le bien, c'est-à-dire qui fasse les choses pour la gloire de Dieu. Personne fait le bien dans le vrai contexte, de la grande image, de la gloire de Dieu. Oh, je fais du bien, je donne. À cause de ma conscience, mais peut-être je ne le fais pas pour la gloire de Dieu. Bon, il y en a qui peuvent dire, je ne suis pas d'accord avec ça, mais moi je lis les Écritures là. Et je vous demande de penser dans les termes qui sont vraiment réels et neutres et pas superficiels. Ça, ce n'est pas bizarre, c'est pas vide. Et entre parenthèses, quand on évangélise, ça doit être dans l'évangélisation aussi, notre façon de parler. Ces choses, nous devons les amener dans la conversation pour que les gens soient convaincus de leur péché. On ne peut pas dire « reçois ton péché, reçois Jésus-Christ » comme ça. Là-bas, en Inde, on ne peut pas dire à ces gens « juste reçois Jésus ». Qu'est-ce que ça voudrait dire pour eux? Ils ont 10 ou 15 dieux à la maison. On ne peut pas juste leur parler de Jésus, de la vie éternelle. Ils ont un dieu pour la vie matérielle, un dieu pour la prospérité. Ils cherchent la bénédiction. Mais quand vous leur dites Jésus, il n'y a pas d'autre dieu devant que lui devant la face de Dieu, il y a un problème. Être né de nouveau, oui, ils aiment cette façon de penser. La réincarnation, ils aiment ça. C'est le meilleur... C'est un bon moyen de rentrer dans la façon de penser hindoue parce qu'ils pensent à la réincarnation. Donc les écritures nous sont données pour amener la conviction, des convictions, pour porter dans nos cœurs le fait que nous avons tort, que nous avons besoin d'aide. Et je peux réaliser que je suis bon, mais écoutez, la vie est meilleure quand on est une bonne personne. C'est sûr, quand tu diriges un business et que tu es bon, ça marche mieux. Quand tu as une famille et que tu es bon, ça marche bien. Mais à quoi ça, quelle est la relation avec la gloire de Dieu? Est-ce que ta bonté est pour la gloire de Dieu? Non. Est-ce que tu cherches Dieu? En général, non. Non. Souvent, on se cache de Dieu, il s'excuse. Les pécheurs s'excusent, ils attaquent la vie, ils utilisent Dieu qui a fait le monde. Hier, je parlais quand j'étais au porte-à-porte et cet homme a dit « Ah, déjà-tu vu ce Chanel en TV Science ?» Ils explorent les planètes. Ils montraient une étoile qui explose et qui, si elle tombait sur la Terre, elle pourrait assécher la Terre, plus de mer, plus qui pourrait assécher complètement la mer. Et ça montrait comment Dieu nous protège dans l'univers. Et j'ai vraiment eu une bonne pensée de la part de cet homme, plein de sagesse. Et regardez au verset suivant. Au verset 13, Paul va d'une description générale du péché à quelque chose de spécifique, une caractéristique. Il parle du gosier, de la langue. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Le psaume 5:9. Le poison de la langue. Qu'est-ce qui change depuis que qu'on a eu cette nouvelle naissance, c'est que notre langage a changé. Nous avons commencé à bénir. Nos changements arrivent parce que nous écoutons la parole de Dieu et qu'elle descend dans notre cœur. Et nous commençons à louer Dieu et à l'aimer et à le chercher et à le désirer. Et nous commençons à être affamés de la parole. C'est la parole de vie dans Philippiens 2. 15. Et alors que nous avons cette crainte de la parole, ça nous affecte. Ça affecte nos pensées dans nos cœurs, ça affecte aussi notre bouche, notre langue, ce que nous disons, ce qui est important pour nous, ce qui est notre conversation. Vous savez, parfois la conversation va dans un certain niveau, d'une certaine manière, ça va dans un sens un peu profane. Profane, je veux dire commun, qui est impropre. Des conversations qui n'amènent nulle part. C'est peut-être même dans 2 Timothée 2 comme juste une conversation vaine, des propos qui n'édifient pas. Peut-être de la suspicion, comme des mots qui sont donnés là, qui soulèvent des questions à propos d'une personne, peut-être des calomnies. La Bible dit que celui qui calomnie, c'est un fou dans Proverbes. Donc nous avons un problème ici qui s'appelle la nature pécheresse. Et quand on devient chrétien, cette nature-là ne s'en va pas. Elle reste là dans notre corps. Et je crois qu'elle est connectée avec notre corps mortel. Parce que quand nous mourons, nous quittons ce corps. Notre corps est enterré dans la terre, mais c'est la première fois où nous serons à vie sans... Nous serons vivants sans une nature pécheresse. Dans le psaume 90, au verset 10, nous serons dans la présence de Dieu et nous serons absents de notre corps, mais présents dans la présence de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5 et Romains chapitre 14. Ouais, nous louons Dieu pour ce jour. Pour le moment, nous sommes là. J'ai ma nature pécheresse qui est toujours là, en train de. Elle fait partie de ma vie, mais j'ai ma nouvelle nature à côté. Et cette nouvelle nature, c'est Christ aussi. Et j'ai ce désir dans mon cœur pour les choses qui sont divines, édifiantes, satisfaisantes, qui me remplissent. J'aime être rempli de l'esprit, de ces choses qui sont nés en vous, qui s'appellent le Fils de Dieu. Tu es né de nouveau, non pas de la chair, mais de l'esprit. Né de nouveau, pas d'une semence corruptible, mais de la parole de Dieu qui demeure pour toujours. Et le Saint-Esprit, vous l'avez entendu, vous l'avez cru, et vous êtes né de nouveau. Né de Dieu, c'est une naissance spirituelle, et maintenant vous êtes né, et en même temps vous avez toujours cette nature pécheresse, et vous réalisez qu'elle peut opérer aussi. Et j'ai l'enseignement de Christ qui a vaincu ma nature pécheresse, et ma nature pécheresse a été vaincue avec lui, et je me reconnais comme mort. Je fais ce calcul. Ma nature pécheresse n'est plus en charge. Elle ne peut plus ruiner ma vie parce que la croix de Christ a crucifié légalement. Et ça, c'est très important. Légalement. Elle n'a plus le droit de me contrôler. Que veux-tu dire? Ben, c'est comme quelqu'un amène un document dans un bureau ou un juge, et il dit voilà, l'autorité regarde à ce document et elle fait un jugement basé sur ce document. Et c'est comme nous prenons ce document et je dis Christ est mort pour moi, je suis crucifié avec Christ et maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis, je vis par la foi de Jésus, le Fils de Dieu qui vit en moi. Et ce document, dans un sens, est présenté à Dieu. Et il dit, c'est vrai, c'est correct. Tu as cette autorité. Tu ne vis plus une autre vie. Tu vis dans cette vie qui est Christ. Et je dis, merci Seigneur, c'est la vérité. C'est la vérité. Ce document... C'est la Bible, en fait. C'est la doctrine que nous amenons devant Dieu. Et nous sommes soumis à Dieu. Est-ce que ce n'est pas relié à ce qu'on disait tout à l'heure? Nous sommes soumis à la loi de Dieu. Et nous croyons ce que Dieu dit. Nous embrassons ses vérités. Nous le croyons. Comment un jeune homme purifie son sentier? En faisant attention, en croyant à cette parole, en s'y attachant. C'est vraiment important, parce que notre bouche peut être comme une poubelle, parce que mon cœur est méchant et séduit. Parfois, j'ai une nature pécheresse. Vous et moi, oui, nous avons une nature pécheresse. Qu'allons-nous faire avec cela? Ah, j'aime pas ça, et c'est sûr. J'ai été à travers plusieurs cycles, où j'ai vu le péché dans ma vie. J'ai péché souvent. J'ai été à travers des situations où j'ai péché des mois, des années, des dizaines d'années. Je comprends ce que c'est et je n'aime pas ça. Et ce n'est pas utile. Je ne crois pas qu'un homme doit vivre comme un chien. Il doit vivre plus comme un ange. Je ne crois pas qu'un homme doit juste vivre de ce qu'il est à l'intérieur, non. De comme faire comme tout le monde, non. Je crois qu'on est appelé à vivre d'une autre manière, une autre vie. Bien sûr, nous le croyons. Parce que dans l'histoire, nous lisons à propos de ces gens et ces réveils, ce travail de la grâce. Nous avons lu une histoire à propos de... Il y avait une maison pour des gens qui ont des problèmes. Une maison, c'était dans la nature à l'extérieur de Chicago. Et il y avait toutes sortes de programmes pour eux, pour les aider. Mais premièrement, ils savent qu'ils sont aimés là. Et un des témoignages du dirigeant de cette maison, « Qu'avez-vous fait pour cette femme ? Elle est complètement transformée. » Et le pasteur a dit, « Elle a lu tous les petits livrets de pasteur Stevens. Elle les a tous lus. » Et elle a pris la Bible, elle a commencé de les étudier, elle a lu tous les livrets de pasteur Stevens et sa vie a été transformée. C'est un des témoignages. Dans une maison de gens qui étaient foutus, en fait. Je veux juste faire un point ici. Nous avons un grand privilège. Nous apprenons Christ. Nous apprenons Christ. Quelle joie! Dans Éphésiens 4, 20, nous avons appris Christ. Comment? Par la nouvelle nature. Et quand je viens et que j'écoute et que j'adore par la foi, c'est là où je rencontre Dieu. Je suis attentif, je reste là par la foi, je rencontre Dieu. Et parfois, juste pour vous dire, pour être honnête, parfois je suis plus très aiguisée, je sais plus ce que je lis. Et un jour, j'ai rencontré un homme qui était allé à la librairie. Et avant, j'aimais pas lire. Il fallait juste que j'aille étudier à l'école. Je le faisais, mais j'aimais pas étudier. J'étais pas un bon étudiant. Mais quand j'ai reçu Christ, j'ai commencé de lire. J'ai commencé à lire beaucoup de choses et mon cœur a été enthousiasmé, pas pour le but de lire, mais j'ai commencé de lire la Bible, j'ai commencé de m'en réjouir. Je la lisais pour des heures et des heures. Et puis peut-être j'attendais la fin de la journée pour que je puisse rentrer à la maison et lire encore un peu plus. C'est incroyable. Et je dis ça pour glorifier Dieu. La nouvelle naissance veut dire que vous avez une nouvelle capacité. Celle-là, vous ne l'aviez pas avant. Regardez cette liste encore dans Romains 3, la description qui continue. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Vous pouvez imaginer ce qu'il y aurait dans une tombe, hélas, l'odeur qui en sort. Et le sens de la mort. Et parfois, le gosier de certaines personnes, c'est cela. Ils se servent de leur langue pour tromper, pour dire des mensonges. Et parfois, nous voyons cela dans notre pays, dans nos gouvernements. Des gens que nous respectons. Mais nous devons réaliser qu'ils sont des gens qui ont une nature pécheresse, qu'ils sont attirés par d'autres choses. Ils sont attirés par leur propre moi, leur méthodologie, qui est le mensonge, souvent, et la tricherie, parce qu'eux aussi sont des pécheurs. Et au verset 14, leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ça, c'est une partie difficile à croire, que les gens sont faciles pour répandre le sang, sont légers pour répandre le sang, légers pour la vengeance. Tu m'as fait du mal, je vais te tuer. Non, on est dans une civilisation qui est bonne, non? Mais oui, moi j'ai des bons vœux pour la société, mais allons plus profond que ça. Il y a des choses qui sont faites qui ne devraient jamais arriver. Il y a un meurtrier qui est là. D'où vient-il? Il est venu de notre économie, de notre voisinage. D'où vient-il? Cela vient du cœur de l'homme. Ça vient de notre nature pécheresse. C'est la description de notre nature pécheresse. Et ce qu'il faut aux États-Unis, c'est l'évangile. Le message, c'est que notre plus grand problème, c'est le péché. Quelle est la réponse pour le péché? Il n'y a que Dieu qui peut nous donner la réponse. Seulement Dieu peut changer mon cœur et me donner un nouvel esprit, un nouveau cœur. Seulement Dieu peut me garder sur cette route. Seigneur, conduis-moi sur cette route de l'amour et du pardon. Qui peut faire cela? Dieu. Est-ce que vous pouvez pardonner à votre mère, à votre père? Pouvez-vous pardonner à votre patron, à votre frère, à un voisin, à votre passé, à vous-même? Non, je ne peux pas, c'est trop dur. J'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Je ne peux pas me pardonner moi-même. Ça, c'est la nature pécheresse de l'homme. Ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile de Christ, le plus grand message du monde, le plus grand impact, ce qui change le cœur de l'homme, qui change la vie, qui change les pensées, qui donne un cœur nouveau, qui donne des nouveaux mots, qui donne un nouveau but, qui glorifie Dieu et qui nous amène dans une vie nouvelle. C'est notre grand don. C'est pour cela que Dieu est venu, que Christ est venu, qu'il nous a donné son Fils. Qu'est-ce que cela veut dire? Il nous a donné son Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je l'entends, ces choses, et quand je suis à mon travail, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a donné son Fils? Ça me donne une nouvelle nature, un nouveau cœur, une nouvelle vie, la grâce de Dieu. Et cet évangile ne serait pas un évangile à moins que Dieu dise, c'est 100% moi te pardonnant. C'est tout à propos de moi et rien à propos de toi. C'est moi qui te pardonne. C'est moi qui t'ai sauvé. Tu ne peux pas te sauver. C'est moi qui te sauve. Je te pardonne. Je t'aime. Et je ne vais jamais arrêter de t'aimer. Je t'ai sauvé. Je te pardonne. Je te donne ma grâce. C'est son message. Tu m'acceptes? Je t'ai accepté. Je t'ai prédestiné. Je t'ai mis dans mon Fils. Tu es sécurisé. C'est comme Noé dans l'arche. Nous sommes dans le Fils de Dieu. Comment? Par la grâce. Dans un moment, dans un instant. Par lui qui l'a fait. C'est lui qui nous a sauvés. Il nous a pardonnés. Il l'a fait. Et moi, je pensais que en faisant de mon mieux, je pourrais. Lui, il ferait aussi son côté. Moi, je fais. Non, c'est pas ça. Vous pouvez même pas commencer sur ce chemin. Vous seriez fou. C'est comme quelqu'un de séduit, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas Dieu quand vous pensez comme ça. Il n'y a pas de compréhension de ce qu'il a fait. Si une personne cherche Dieu, c'est la grâce de Dieu qui le fait, qui l'attire. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire. Dans Jean 6, vous ne pouvez pas trouver Dieu de votre côté. Vous pouvez penser que vous le faites et vous, quelque part, vous faites ce que vous faites. Mais en tant que pécheur, vous ne pouvez pas. Peut-être vous cherchez une religion, peut-être vous cherchez une bonne conscience, mais vous ne comprenez pas Dieu, vous ne le cherchez pas. Et à la fin, il est écrit, personne n'a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Il y a des gens, ils ont besoin d'entendre cette phrase. Peut-être dans vos conversations avec eux. Et la raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est parce que j'ai la crainte de Dieu. Pourquoi je ne pêche pas? Parce que j'ai la crainte de Dieu. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Oui. Dans cette nouvelle nature, j'ai le respect, j'ai l'honneur, j'apprécie, je cultive, je pense, je veux avoir la crainte de Dieu. Et c'est comme je suis sur le côté, quand le train arrive, je me tiens sur le quai avec beaucoup de respect parce que je sais que si le train me rentre dedans, c'est ce qui pourrait arriver. J'ai du respect pour l'électricité et j'ai du respect pour la médecine et j'ai du respect pour le Covid. Bien sûr, quand vous êtes sur l'autoroute, vous avez du respect pour les voitures qui passent, faites attention. Mais bien. Et quoi à propos de Dieu maintenant? Et si Dieu nous rend responsables dans Matthieu 12, et s'il dit qu'il nous a fait pour sa gloire, et que nous sommes en dehors de cette gloire, parce que nous vivons pour nous-mêmes, Seigneur, reste là-bas, Dieu, reste là-bas, moi je vis ma vie, je veux le faire de ma manière. Je vais faire mes désirs, suivre ma propre voie, mes ambitions, mes appétits. J'ai ma vie à vivre. C'est moi. Ça, c'est être un pécheur. Et où est-ce que ça nous amène? Une vie misérable. Misérable. Et regardez, verset 16, la destruction et le malheur sont sur leur route. On voit beaucoup de ça. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Est-ce que c'était édifiant ce que j'ai dit ce matin? On n'est même pas arrivé aux bonnes choses. Hein. Non, mais je pense. Si on peut avoir des gens qui nous écoutent et leur dire, mes chers amis, mes voisins, mes amis à la campagne, là, chacun de nous, de la race humaine, nous manquons quelque chose, nous sommes perdus, nous sommes dans le trouble, nous produisons un monde qui est... Il y a tellement de choses qui sont au-delà de nous. Chers amis, venez à Jésus-Christ. Et craignez Dieu. Cherchez-le et vous le trouverez. Connaissez-le. Et la paix rentrera dans vos cœurs. Vous allez l'aimer, apprendre de lui. Et votre vie aura tellement de valeur. Venez comme vous êtes. Amen. Si vous voulez Jésus dans votre vie ce matin, venez à lui. si vous avez entendu ce message et que vous croyez en lui, Seigneur, rentre dans mon cœur, sauve-moi, je te prie. Si vous faites cette prière, à tous ceux qui l'ont reçu, il aura été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous admettez votre péché, vous le comprenez et vous dites, je reçois Jésus et il vient et maintenant marcher dans la foi en lui, dans son nom. Amen.